Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute. Alexis Rosenzweig au micro pour les informations dont voici les titres. Les leaders de la coalition gouvernementale s'engagent à poursuivre leurs négociations pour résoudre la crise. Le président Klaus refuse d'entériner le départ de 3 ministres. Et puis, projet de transfert de la dépouille du grand peintre František Kupka du Père Lachaise vers la République tchèque. Les 3 partis de la coalition gouvernementale, à savoir le Parti civique démocrate ODS, Top 09 et Affaires publiques, VV, entendent continuer leur collaboration au sein de la coalition. Les négociations qui se poursuivaient ce mardi doivent aboutir à une modification du présent accord de coalition. D'après le chef du groupe parlementaire ODS, les négociateurs attendent que le président Václav Klaus accepte la démission et les révocations de 3 ministres du parti VV, comme le souhaite le Premier ministre Peter Nečas. Mais le président de la République, Václav Klaus, refuse toujours d'entériner le départ de 3 des 4 ministres VV proposés par le chef du gouvernement. Il exige, vous le savez, de la part du gouvernement, un plan de sortie de crise avant d'accepter un remaniement. Lundi, Peter Nečas lui avait amené la démission du ministre des Transports, ainsi que les propositions de révocation des ministres de l'Intérieur et de l'Éducation. Selon la Constitution, pourtant, le chef de l'État est tenu de respecter les choix du chef du gouvernement. Même pour le principal parti de l'opposition, le CSSD, Václav Klaus est en train de s'attribuer des compétences qui ne sont pas les siennes, comme il l'a déjà fait, par exemple, en refusant pendant longtemps de signer le traité de Lisbonne. Fin de citation. La région de Hradec Králové, c'est en Bohême de l'Est, demande le transfert de la dépouille du célèbre peintre tchèque František Kupka en République tchèque. Pionnier de l'abstraction en peinture, Kupka est originaire de cette région. Il est mort à Puteaux, près de Paris, en 1957, enterré au Père Lachaise et pourrait donc désormais être inhumé au cimetière de Slavine, à Prague, où reposent de nombreux artistes tchèques. Le projet est soutenu par le ministre de la Culture, Jiří Besser, et par la collectionneuse d'art moderne, Mme Latková. Les ministres de la Culture français et tchèque devraient en discuter en juin prochain. Un mot de sport pour vous dire que le Sparta Prague a gagné lundi à l'occasion de la 23e journée du championnat tchèque de football, évidemment, en s'imposant 2-0 face à son rival pragois, le Slavia. Et les 2 buts ont été inscrits au cours des 12 premières minutes par le Camerounais Léonard Kouéouké. Environ 400 policiers ont veillé au bon déroulement du match, suivi par un nombre record de presque 19 000 spectateurs. Au classement de la Gambrinus Liga, le Sparta est deuxième, devancé par le leader Plzeň de 6 points. Un mot sur la météo. Le ciel devrait se couvrir ce mercredi avec de la pluie prévue et des températures en baisse autour de 7 degrés dans la journée. Il devrait même neiger en altitude au-dessus de 700 mètres. Voilà pour le bulletin. Pour plus d'infos, c'est www.radio.cz. Et dans un instant, dans une poignée de secondes, c'est le programme en français de Radio Prague qui se poursuit, présenté aujourd'hui par Anna Kubishta.
Fais événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Alexis Rosenzweig pour ce bulletin d'information. Ce mardi, 50 ans se sont écoulés depuis le premier vol de l'homme dans l'espace. Le 12 avril 1961, Youri Gagarin devenait ainsi un mythe de la conquête spatiale. Nous évoquerons ensuite les prix Goncourt tchèques qui ont été remis dimanche à Prague avant de passer à la rubrique Panorama. Bonne écoute de ce programme. Le 12 avril 1961, le premier homme volé dans l'espace, cet homme c'était le russe Youri Gagarin, et son nom reste associé à la conquête spatiale, comme celui de l'américain Louis Armstrong pour ses premiers pas sur la Lune. Il y a 50 ans donc, le nom de Gagarin s'inscrivait dans l'histoire et une exposition à Prague le rappelle. 1h48, c'est le temps que Youri Gagarin passa à l'âge de 28 ans en orbite autour de la Terre dans le module Vostok 1. Un vol qui aurait pu mal tourner puisque lors de sa redescente, le module ne se détacha pas immédiatement. Finalement, Gagarin parviendra à s'éjecter de la capsule en parachute, même si les soviétiques tenteront de dissimuler l'incident. Gagarin devient un héros mondial d'est en ouest et sillonne le monde. Jan Kolář, directeur de l'agence spatiale tchèque, n'hésite pas à comparer le vol de Gagarin à l'expédition de Christophe Colomb, avec quelques nuances toutefois.
Ta podobnost je v tom, že šlo o výpravy. Il y a similitude parce qu'il s'agit d'une expédition de la civilisation d'alors, de l'ancien monde, de l'Europe, en des lieux où les Européens n'étaient jamais allés. C'était une expédition vers l'inconnu. Pour Gagarine, c'était la même chose, une expédition dans l'inconnu, en des lieux où personne n'était jamais allé et sans savoir ce qu'il y attendait. Mais c'est différent aussi dans le sens où c'est autre chose de voguer sur les mers que de voler dans l'espace. Du point de vue technique et de l'environnement, c'est incomparable. La difficulté est bien plus grande dans le cas d'un vol spatial.
Ce mardi, à Prague, a été ouverte une exposition à l'observatoire Stefanik, perché sur les hauteurs de la colline de Petchin. Là, une réplique du célèbre module Vostok 1 est à voir et on s'étonne presque de voir la simplicité du tableau de bord, presque moins compliqué que celui des voitures actuelles. L'exploit de Yuri Gagarin a fait le tour du monde et a contribué à créer une émulation sans précédent entre les deux grandes puissances mondiales de l'époque. Car en plus de l'exploit technique, le mythe Gagarin est allé de pair avec une propagande bien ficelée de la part de l'Union soviétique, comme le rappelle Jan Kolář.
Toute l'astronautique et les débuts de l'ère cosmique, c'est-à-dire les années 1960, s'inscrivent dans le contexte politique de l'époque, la guerre froide. Les deux grandes puissances mondiales de l'époque ont réalisé que l'astronautique pouvait être un instrument convaincant et efficace pour faire preuve de ses capacités vis-à-vis de l'autre système. Le vol de Gagarine a été sans aucun doute un excellent moyen de ce genre. En URSS, mais aussi dans tout le bloc de l'Est, ça a été présenté comme un succès du régime socialiste. En effet, ça a été un grand succès. Mais on peut se demander dans quelle mesure c'était du fait du régime.
Otázka, do jaké míry to souviselo se zřízením politickým.
Celý svět slyšel tu zprávu TASu. Celý svět zanechal hovoru. Celý svět vyskočil od rozhlasu. A zdvihl pohledy nahoru.
Dans son tour du monde, Yuri Gagarin se rendra le 28 avril 1961 en Tchécoslovaquie, premier pays à l'accueillir après son vol spatial. Une chanson célèbre, celle que vous venez d'entendre, « Bonjour Major Gagarin », sera d'ailleurs composée à l'époque en son honneur, comme c'était souvent de coutume dans ce régime communiste fervent du culte de la personnalité. Une chanson qui est néanmoins restée connue à travers les années. Tant et si bien qu'elle s'est vue remixée par un chanteur pop et rien moins qu'une ancienne ministre de la Défense, ardente partisane du projet avorté de base radar américaine en République tchèque.
Vyžitám, prosím, do vesmíru, vyžitám mezi hvězdama, že chcem žít nadál s každým v míru, radši však žijem u sama. Dobrý den, radare.
Voilà, chacun pourra juger de l'opportunité des deux versions. Alors, comme le relève justement Zbigniew Petráček dans le quotidien Ledové Novené, Yuri Gagarin a été une icône pop de l'ère soviétique. Et malgré la fracture idéologique Est-Ouest, il est devenu un mythe pour toute une génération, quel que soit le pays. Et tout comme les pop stars, il a disparu prématurément à l'âge de 34 ans, laissant derrière lui l'image d'un éternel jeune homme conquérant de l'espace. Depuis dimanche sont connus les lauréats du prix Magnesia Litera, le prix littéraire le plus prestigieux en République tchèque. Organisé au Théâtre des États de Prague, la cérémonie de remise des prix s'est déroulée dans une ambiance plombée par la décision prise récemment par le gouvernement d'augmenter le taux de TVA sur les livres, en le faisant progressivement passer des 10% actuels à 17,5% d'ici à 2013. Cette décision risque en effet de nuire considérablement à la production livresque et au marché des livres en République tchèque. Václav Richter.
Malgré des perspectives d'avenir plutôt sombres, la création littéraire en République tchèque reste riche. Pavel Mandis de l'association Litera s'est félicité de la qualité des ouvrages nominés dans les 7 catégories du prix Magnesia Litera.
C'est une année très forte en ce qui concerne les nominations, notamment dans la catégorie de la prose. En même temps, les qualités des candidats étaient quasi égales. J'espère que les prochaines éditions du prix Magnesia Litera seront aussi fortes et équilibrées que celles-ci.
C'est la dernière œuvre de Jan Balaban qui a été proclamée livre de l'année. Le jury a distingué In Memoriam, ce prosateur disparu en avril 2010, à l'âge de 49 ans. Ce n'est pas la première distinction remportée par ce roman intitulé Zepte Setate, demande à ton père, déjà sorti vainqueur d'une enquête du journal Lidové Noviny. Selon le jury, le dernier roman de Jan Balaban est une confession d'une sincérité profonde sur la vie in extremis. Représentant de la maison d'édition Host, qui a publié ce dialogue entre un fils et un père défunt, Miroslav Balaštík rappelle la situation très particulière ayant marqué la gestation de cette œuvre qui parle de la mort, mais aussi de la vie et du rapport de l'homme vis-à-vis de son passé.
Bien sûr, de nombreuses circonstances fatales ont accompagné la création de ce livre. Le livre évoque la mort du père de l'auteur. Pour Jan Balaban, c'était donc un livre fatal. Je crois que cet ouvrage parachève en quelque sorte ce qu'il y avait dans les ses livres précédents.
La victoire dans la catégorie de la prose a été remportée pour la deuxième fois déjà par l'écrivain et cinéaste Martin Rishavi. Comme pour son succès précédent, Voyage en Sibérie, c'est en Russie que Milan Rishavi a trouvé la matière pour son deuxième grand succès littéraire. Le roman intitulé Vrach lui a été raconté par le russe Alexandre Ivanovitch Poutkin. Milan Rishavi a présenté ce conteur infatigable au public de la cérémonie de la remise des prix.
Lors du voyage de retour d'un tournage en Sibérie, je me suis arrêté à Moscou et c'est là que j'ai fait sa connaissance. Nous avons été présentés l'un à l'autre par des amis communs. J'ai mis cependant beaucoup de temps à réaliser que les histoires qu'il me racontait pourraient être réunies dans un livre. J'avais déjà pas mal d'histoires, mais il me manquait toujours une idée centrale, un thème majeur. Ce livre n'est pas qu'un ensemble d'histoires. Il y a eu donc une évolution.
Le jury a attribué également les prix Magnesia Litera dans les catégories poésie, traduction ou encore livre pour enfants. Le prix des lecteurs a été remporté par Hanna Andronikova pour son livre Nebe nema dno, Le ciel est sans fond, texte autobiographique qui retrace les expériences de l'auteur atteinte d'une grave maladie et qui décide de partager la vie des habitants de la forêt amazonienne. Enfin, c'est l'ouvrage intitulé Straka vrzhichi entropie, La pie dans l'empire de l'entropie, que le jury a proclamé découverte littéraire de l'année. Son auteur, Marketa Bankova, a réussi un véritable exploit en mariant dans ce livre pour enfants et adultes la vulgarisation de la physique avec un récit captivant.
Voilà, et si vous désirez avoir plus d'informations sur les meilleurs livres tchèques de l'année dernière et sur les prix Magnesia Litera 2011, écoutez ou lisez la prochaine rubrique Rencontres littéraires. Et tout de suite, on passe à la deuxième partie de notre émission. Dans l'émission Panorama, aujourd'hui, Alexis Rosenzweig revient sur la visite de Heider Heydrich, le fils du dignitaire nazi Reinhard Heydrich, qui était en République tchèque le mois dernier. Une visite qui a fait couler beaucoup d'encre.
Panorama.
Panorama.
Rares sont les Tchèques qui ne connaissent pas le nom de Reinhard Heydrich, le boucher de Prague, le SS Obergruppenführer, protecteur de Bohême-Moravie, mort de ses blessures après un attentat commis par deux parachutistes tchécoslovaques le 27 mai 1942. Alors lorsque le nom de Heydrich fait à nouveau l'actualité en République tchèque, cela prend une ampleur assez inhabituelle, mais cela fait aussi et surtout beaucoup de bruit pour rien. L'affaire remonte au 24 mars, avec la diffusion par la première chaîne de la radio publique tchèque d'un reportage intitulé « Le fils de Heydrich veut aider à rénover le château de Panenský-Břežany ». Le château de Panenský-Břežany est le lieu où résidait la famille Heydrich pendant la guerre. Dans ce reportage, c'est l'actuel maire de cette commune qui racontait la venue du fils de Reinhard Heydrich, Heider Heydrich, qui lui aurait soi-disant proposé de l'aider à récolter des fonds pour rénover le château de la commune. Pourtant, lorsque nous avons joint Heider Heydrich par téléphone, après son retour en Bavière, ce n'est pas exactement ce qu'il a dit.
C'est vrai que je suis venu à Panenské Břežany pour effectuer une visite tout à fait privée, puisque, comme vous le savez peut-être, mon frère est enterré là-bas.
Und zwar wissen Sie vielleicht, dass mein Bruder dort begraben ist. Und bei der Gelegenheit habe ich eine Dame, alte Dame, getroffen.
À cette occasion, j'ai rencontré une vieille dame qui a travaillé dans le jardin il y a longtemps. Elle m'a montré l'emplacement exact où il a été enterré. Nous avons échangé des souvenirs personnels de manière tout à fait chaleureuse et sympathique.
Und dabei war dann auch der Herr Bürgermeister. Und der Herr Bürgermeister sagte mir, dass sehr traurig und sehr entsetzt.
Il y avait aussi le maire de la commune qui m'a dit qu'il était triste et contrarié par l'état du bâtiment et de toute la propriété. Je lui ai dit que je partageais son avis. Mais si quelque chose doit être fait, seul le propriétaire peut le faire. Et le propriétaire, d'après ce que le maire m'a dit, n'a pas le projet de faire des travaux et n'a pas de moyens financiers pour en faire. À partir de là, la question de mon éventuelle aide est sans objet. Le maire connaît le propriétaire. Il m'a dit qu'il avait parlé deux ou trois fois avec lui. On ne peut apporter son aide que lorsqu'on vous le demande et qu'il y a un plan concret que l'on peut aider à réaliser. Quand ce n'est pas le cas, ça n'a pas de sens.
Voilà pour la mise au point de Heider Heydrich et le maire, Libor Holík, qui par ailleurs est membre du parti politique Věci veřejné, dont on parle beaucoup en ce moment, le maire a fini par concéder il y a quelques jours qu'il avait peut-être extrapolé un peu et envoyé une lettre d'excuse à Heider Heydrich. Cette histoire, ou plutôt cette non-histoire, reprise par de nombreux médias et des médias étrangers également, avant le démenti du fils Heydrich, a eu en tout cas le mérite pour certains historiens tchèques d'établir avec certitude que le fils aîné de Heydrich, victime d'un accident en 1943, était bien enterré dans le jardin du château. Nous pensions que le cercueil avait été emmené en Allemagne par la mer après la guerre, indique l'historien Jaroslav Čvančara, qui a pu lui aussi rencontrer Heider Heydrich lors de son passage à Panenské Břežany. Klaus Heydrich s'était fait renverser en octobre 1943 par une camionnette qui transportait une équipe de football. Et Čvančara de préciser au quotidien Mladá Fronta Dnes que c'est un médecin juif qui travaillait comme une centaine d'autres prisonniers dans le domaine du château qui a tenté de lui apporter les premiers soins. Pour Heider Heydrich, ce retour à Panenské Břežany le mois dernier était très nostalgique.
Ja, das war ein Stück meiner Kindheit. Wenn Sie da mit der Dorfjugend gespielt haben, wenn Sie dort...
C'est un morceau de mon enfance. Quand vous avez joué là-bas en tant que petit garçon, quand vous y avez passé du temps, bien sûr, c'est un morceau de ma jeunesse, dont je me suis d'ailleurs souvenu avec la jardinière.
Sie hat ja dort gearbeitet und wir als Kinder haben sie auch, ich habe zum Beispiel auch in der Gärtnerei.
Elle a travaillé dans le jardin et nous, les enfants, moi aussi, nous étions parfois dans ce jardin. Nous y avons planté des fleurs, elle s'en souvenait, je me suis souvenu d'elle. Nous avons parlé des autres personnes, du jardinier en chef, du garde forestier qu'elle connaissait. Nous avons échangé des souvenirs, rien de plus.
C'est l'historien Jaroslav Čvančara qui avait invité Heider Heydrich à Prague et l'a emmené à Panenské Břežany. Très remonté contre le comportement du maire et la médiatisation de cette fausse histoire, il s'est quand même déclaré content d'avoir pu communiquer avec le fils de Reinhard Heydrich, qui selon lui était tout à fait bien disposé à parler du passé. À Radio Prague, Heider Heydrich a dit qu'il aimait la République tchèque, malgré le fait que son père y ait été tué.
Wir leben ja nicht mehr in der Zeit des Nationalsozialismus, nicht? Und die Zeiten sind, und Sie können ja wohl davon ausgehen, dass ich auch gelernt habe, was in der Zeit wirklich passiert ist.
Nous ne vivons plus au temps du nazisme. Vous pouvez supposer que j'ai appris ce qui s'est réellement passé pendant cette période. J'avais 10 ans quand je suis parti de là-bas. J'ai rencontré des amis là-bas. J'aime ce pays et la ville de Prague, une belle ville, un beau pays européen.
finde es ja eine schöne Stadt und ein schönes europäisches Land. Für mich ist es ein liebenswertes Land, ja.
Pour moi, c'est un charmant pays. Je n'ai aucun ressentiment envers les Tchèques. Je comprends les circonstances et les respecte.
Respektiere das auch.
Après ce dernier passage remarqué en République tchèque, Heider Heydrich, aujourd'hui âgé de 76 ans, confie qu'il ne reviendra plus en Bohême.
Je ne vais pas revenir à Prague ou ailleurs. J'ai beaucoup d'amis là-bas que je rencontrais. J'aimais venir en République tchèque, mais je ne retournerai plus là-bas. Ce temps est révolu. Je n'ai plus de raison d'y retourner.
Et selon le journal Mlada Frontadnes, le maire de Panenské Břežany, Libor Holík, voulait lui rendre visite pour tout lui expliquer, mais Heider Heydrich a poliment refusé.
Voilà, c'est avec ce panorama que s'achèvent les émissions en français de Radio Prague. Vous le savez, tous ces sujets, vous pouvez les retrouver en texte retranscrit ou en podcast ou encore en streaming sur notre site internet le www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité.